Les podcasts du Collège de France, littérature.
Et Milton, on a demandé à Milton de concevoir un petit divertissement au fond pour que la famille du châtelain, le comte de Bridgewater, puisse se divertir en le jouant. Et il a imaginé une histoire où la fille et les deux fils du châtelain traversent une forêt la nuit pour rentrer chez eux. La jeune fille se perd, est ensorcelée par Comus, le fils de Bacchus et de Circé, dont la drogue transforme la tête des hommes en tête d'animaux. Mais ensorcelée, elle refuse néanmoins la drogue. Un esprit ou un démon, comme Ronsard l'aurait appelé, D-A-I-M-O-N, un esprit envoyé par les dieux, se déguise en berger et aide les frères à faire fuir Comus et sa bande. Sabrina, déesse du fleuve Severn, libère la jeune fille du charme de Comus. Les trois jeunes arrivent au château. Tout se termine en chant et en danse. Autrement dit, Milton a écrit une petite parabole de la vertu qui résiste à la tentation et un récit, ma foi, très peu prometteur. Le tout, c'est dans la poésie de Milton et ce qu'il fait de ce presque rien. Mais en quoi le masque concerne-t-il le bonheur d'être ici? Dans un cours d'il y a quelques années sur le génie de la poésie anglaise, j'ai parlé de Milton et j'ai parlé en particulier de ses deux poèmes qu'il a écrits encore plus jeunes, L'Allegro et Il Penseroso. Ce sont des titres faux italiens. L'Allegro et Il Penseroso qui sont ensemble, qui constituent ensemble une méditation sur deux sortes de bonheur, deux façons d'habiter le monde, deux façons d'être ici. L'allégresse de l'allegro, qui est se réjouir de la vie telle qu'elle, et ce que Milton appelle, avec beaucoup de ses contemporains, la mélancolie, mais il faudrait mettre le mot entre guillemets, qui serait une joie plus profonde, avertie de la misère de la vie et sensible au mystère. Et ces deux poèmes sont une pensée sur la qualité du bonheur, une pensée qui revient précisément dans Comus. Parlons d'abord du bonheur. Comus lui-même est le travestissement du bonheur. Comus, qui est une sorte de semi-déité, fils de Bacchus après tout, un méchant, un être des bois, ennemi de la virginité en particulier, que Milton semble avoir prisé beaucoup. Comus est une sorte de travestissement du bonheur, un travestissement aussi de Pâques, et d'Oberon et de Titania, etc. Dans Shakespeare, il y a ce monde féerique, démonique, pour ainsi dire, en dehors de la vie des humains, mais tout près, néanmoins, de leur village et de leur ville, qui représente un petit danger, mais un danger pas trop sérieux, et qui représente surtout une sorte de beauté, la beauté de la nature et la beauté des êtres qui peuvent se mélanger littéralement aux choses naturelles, aux présences naturelles. Comus est une sorte de parodie, de travestissement de ce monde enchanté au-delà de l'humain. Et il emploie le vocabulaire de l'allegro dès sa première tirade, où il est question de joy, joie, feast, fête, revelry, festivité, réjouissance, jollity, gaieté, sport, divertissement. Il me vient à l'esprit d'ailleurs qu'il suffit de dire ces mots-là, les uns après les autres, pour replonger dans le monde shakespearien et pour penser que Milton prend peut-être appui sur le théâtre shakespearien précisément pour créer Comus qui en serait le travestissement. Et Milton rappelle donc Shakespeare, mais aussi son poème L'Allegro. Il le fait à un moment de façon presque explicite, pas tout à fait bien sûr, mais de façon tellement évidente qu'on ne peut l'éviter. Les compagnons de Comus dansent « in a light fantastic round ». Ils dansent dans des rondes légères, extravagantes. Et dans l'Allegro, il est question de danser « on the light fantastic toe », avec des pas légers, extravagants. Et surtout, Comus dit ceci à propos de ses amis, enfin ses compagnons, sa bande, et de lui-même. « Nous qui sommes d'un feu plus pur, imitons le cœur des astres qui, par la vigilance de leurs orbites nocturnes, mènent dans des rondes rapides les mois et les années. » Notons le mot « imitons ». Nous imitons la danse des astres. La danse de la bande de Comus imiterait la danse des étoiles. Le bonheur serait le reflet du bonheur de l'univers. L'univers lui-même danse, selon Comus. Mais en fait, Comus et sa bande, au lieu de vraiment imiter et de mettre en valeur sur la Terre la danse éternelle de l'univers, la travestissent par une tipsy dance, une danse d'ivrogne. Il est le fils, après tout, de Bacchus. Mais je note, car c'est cela, me semble-t-il, qui intéresse Milton. Comus, qui est un vilain, qui est un méchant, voit néanmoins la danse, l'ordre joyeux de l'univers. Il voit cet ordre. Il voit que le bonheur d'être ici vient de ce que l'on vit au diapason de l'ici et au diapason de la profondeur de l'ici, de la profondeur de l'univers. Mais il est incapable, en même temps, de mettre en pratique ce qu'il voit. Milton n'a pas inventé le personnage, mais il réfléchit sur son nom, Comos, en grec, qui signifie festivité, réjouissance, et qui est la racine du mot comédie. Comus est le travestissement de la réjouissance, le travestissement aussi de la comédie. La comédie shakespearienne est travestie dans Comus. Mais le masque, c'est-à-dire le masque cri-cri Milton, rachète l'allégresse. De retour au château, l'esprit et les trois jeunes assistent à des danses champêtres, assistent à du sport, divertissement, à du cheer, à de la gaieté, et même à du mirth, de l'allégresse. Et de nouveau, Milton rappelle l'allegro par une expression très marquée et en réalité, en anglais, un peu curieuse. Il est question d'un sunshine holiday, un jour de fête ensoleillé. L'expression n'est pas curieuse en français, mais en anglais, croyez-moi, elle l'est. Et c'est une expression qu'il a déjà utilisée dans l'Allegro. Et la jeune fille et ses deux frères se rejoignent ensuite dans une autre sorte de danse, une danse plus noble, bien sûr, sur des enfants de conte, que l'esprit appelle une danse victorieuse, qui représente bien évidemment le triomphe de l'intempérance, sur l'intempérance, pardon, et sur la folle sensualité de la vertu de la jeune fille. C'est une danse bien plus proche de la danse des étoiles. Mais le plus intéressant ici, c'est que l'esprit retourne finalement au ciel. C'est un démon. Ou plus précisément, il retourne au jardin des Hespérides, où revels the spruce and the jocund spring, 984. Revels the spruce and jocund spring, se délecte le printemps, gracieux et gai. Jocund vient de l'allegro, revels, se délecte, se divertit, rappelle le revelry, divertissement, de Comus. Autrement dit, l'allégresse de l'allegro est présente au ciel, ou juste avant le ciel, là où habite l'esprit, les démons de Ronsard, etc. L'allégresse est présente juste avant le ciel gréco-latin du poème étant bien sûr une figure du ciel chrétien. Et il y a une sorte de dialectique dans la pièce. L'allégresse des bergers de Laszlo est une simple allégresse, c'est le bonheur d'être ici, sans plus. Ensuite, il y a l'allégresse travestie, déchue de Comus et de sa bande. Puis, au-delà de cela, il y a l'allégresse éternelle du ciel. Mais dans le monde actuel, ou le monde comme il va, il existe aussi, au-delà de l'allégresse, une mélancolie qui est plus profonde et, au fond, plus joyeuse. Et au-delà d'un bonheur de l'ici fondé sur l'allégresse, il y a un bonheur de l'ici fondé sur la mélancolie. Et encore une fois, la distinction est déjà présente dans l'allegro et il penseroso. Et dans Comus, l'esprit, en jouant le rôle du berger Tircis, dit avoir projeté de jouer de la flûte, de faire de la musique pastorale, et de chanter, vers 545, « Wrapped in a pleasing fit of melancholy », enveloppé d'une agréable mélancolie. Notons l'adjectif. Ce n'est pas un oxymore pour Milton. A pleasing fit of melancholy, une agréable mélancolie, est sa façon de dire qu'une certaine mélancolie, avertie de notre misère, avertie aussi du mystère qui nous environne, est agréable et nous permet d'entrer dans le sérieux de la condition humaine. Milton oppose cette contemplation sérieuse et, au fond, joyeuse de la totalité de notre expérience, au sens ordinaire de mélancolie, lorsqu'il fait dire à Comus que la jeune fille qui refuse de prendre sa drogue doit avoir du sang mélancolique. C'est le sens simplement péjoratif ou disons médical du mot. Les frères aussi approuvent la solitude, la contemplation, la méditation et même vers 386, « the pensive secrecy of desert cell », la solitude pensive, pour ainsi dire, d'une grotte d'ermite. J'ai retenu le mot parce que c'est le mot qui fait venir à l'esprit, évidemment, « il penseroso ». Autrement dit, le monde étant déchu, le monde recelant au plus sombre de la forêt de l'être, le mal que représente Comus, le bonheur d'être ici, pour être vrai, se doit de s'approfondir, de passer de l'allégresse à l'agréable mélancolie. Comus connaît delight, bliss, le bonheur, etc., mais la jeune fille lui assure qu'il n'est pas digne de connaître, 788, « more happiness than this thy present lot », plus de bonheur que celui de ton état. Autrement dit, au-dessus du bonheur, il n'y a pas autre chose. Il y a un plus grand bonheur auquel Comus n'aura jamais accès. Le bonheur est donc travesti, racheté, approfondi. Ensuite, le poème s'occupe de l'ici. Et je commencerai par une question que l'on peut poser à l'œuvre. À la fin de la première tirade, l'esprit entend l'approche de Comus et de sa bande et dit, vers 90-91, « I hear the tread of hateful steps. » J'entends le bruit de pas odieux. Puis, au milieu de la danse de sa bande, Comus entend l'approche de la jeune fille. 185-186, « I feel the different pace of some chaste footing. » Je sens le pas différent de pieds innocents. Mais pourquoi ce rappel? Pourquoi ces moments semblables? Parce qu'ils concernent tous deux la façon dont nous habitons la terre, dont nous nous mettons en rapport avec l'ici. Même les pas de Comus et de la jeune fille, leur manière de marcher, révèlent, dans la fiction du poème, leur façon d'être. Et c'est souvent en essayant de résoudre de telles petites énigmes, de tels problèmes, que l'on commence à s'imprégner du sens d'une œuvre. D'où la présence continue de la forêt, ou plus précisément du bois, wood, et la façon dont on en parle. Dès l'indication de scène qui désigne un wild wood, un bois sauvage, nous sommes dans la selva selvaggia de Dante, au début de l'enfer. L'esprit l'appelle un hideous wood, un bois hideux. Il parle de this ominous wood, ce bois menaçant. Et je note que ominous vient du latin ominosus ou ominosus, qui vient lui-même du latin omen, qui signifie un présage. Autrement dit, un ominous wood concerne le malheur, le malheur, le mauvais présage d'être ici, et non pas le bonheur d'être ici. Un des frères, toujours à propos du bois, parle du cachot de branches innombrables. Et le bois est en effet la figure du malheur d'être ici, dans « this wild surrounding waste », ce lieu sauvage et désolé qui nous environne. Mais ce n'est pas la seule façon de décrire le bois. La jeune fille parle de « this leafy labyrinth », ce labyrinthe de feuilles. Et elle veut dire en premier lieu ce labyrinthe constitué non par des pierres, mais par des arbres. Mais « leafy », feuillu, plein de verdure, est un adjectif agréable. Et l'allitération « leafy labyrinth » est aussi agréable. Puis la jeune fille, encore perdue, parle d'une part, 180, de this blind, « the blind mazes of this tangled wood », le dédale aveugle de ce bois enchevêtré, mais d'autre part, trois vers seulement plus tard, lorsqu'elle décide de s'arrêter avec ses frères, de the spreading, 183, the spreading favor of these pines. Il s'arrête sous la ramure bienveillante de ces pins. Et encore trois autres vers plus tard, les frères vont chercher les fruits, 186, as the kind hospitable woods provide, que fournissent les bois accueillantes, accueillants et aimables. Alors, est-ce que Milton se contredit? Est-ce qu'il oublie ce qu'il a déjà dit à propos du bois? Je ne le pense pas. L'ici est en partie ce que nous percevons. La jeune fille ne se trompe pas sur le danger du bois, labyrinthe, dédale, mais elle le voit aussi dans une autre perspective. Milton s'intéresse à comment l'on voit l'ici. D'où le bonheur des noms, le plaisir qu'il prend et qu'il nous offre dans la façon dont il dit des choses déplaisantes. Par exemple, vers 351, un des frères s'afflige à la pensée que sa sœur erre dans le bois. Le vers parlait d'abord, avant les divers changements que Milton faisait, le vers parlait d'abord, après la froide rosée, de cette morte solitude ou de ce désert environnant, etc., avant que Milton trouve « amongst rude burrs and thistles », parmi la bardane sauvage et les chardons. La version définitive est bien plus concrète, bien plus détaillée, comme c'est en général le cas dans la poésie anglaise, mais comme ce n'est pas souvent le cas dans Milton, ou du moins les critiques ne parlent pas ainsi de sa poésie, et le vers définitif, « From the chill dew amongst rude birds and thistles », de la froide rosée parmi la bardane sauvage et les chardons, parle de choses désagréables, mais remplit bien la bouche. Le vers parle de ces choses désagréables d'une façon particulièrement agréable. Et je note en particulier que Milton n'écrit pas « among », mais que délibérément, il écrit « amongst », qui était à l'époque une autre façon de dire le mot. « Amongst », ce qui l'oblige à dire « amongst rude birds ». C'est difficile à dire, mais c'est très agréable à dire. Nous habitons l'ici que nous voyons, semble dire Milton, d'où l'importance de comment nous voyons et d'où l'importance de la poésie, de toutes les formes d'art qui nous permettent de mieux habiter l'ici, c'est leur valeur, ou qui nous fascinent, c'est leur danger. Et puis, Milton parle presque explicitement de comment on se met en rapport, bien et mal, avec l'ici. À certains moments, l'esprit, dans les premiers vers, par exemple, crée un espace immense. Il vient, dit-il, du seuil de la demeure de Jupiter, où les esprits aériens vivent parmi les étoiles, etc. Et il semble dire du mal de la terre. Les habitants de la terre les esprits, les démons, etc., habitent au-dessus de la fumée et de l'agitation of this dim spot which men call earth, de ce lieu sombre que les hommes appellent la terre. Et lui-même, sans sa mission de sauver les trois jeunes, n'aurait pas accepté, dit-il, de salir ses vêtements avec les vapeurs fétides de cette demeure de péché. Mais c'est pour dire que ceux qui sont confinés dans cette fourrière, this pinfold, qui ne voient que la petite réalité qui les entoure, vers 8, strive to keep up a frail and feverish being, s'efforce de maintenir un être fragile et fiévreux. Comus est un poème, autrement dit, sur l'être, écrit par un jeune homme, il n'a que 26 ans, qui comprend qu'une vue étroite du réel réduit l'être. L'esprit aussi passe de ce lieu sombre et des vapeurs fétides à une description du règne de Neptune, des îles qui, comme des pierres précieuses, riches et variées, Parsem, vers 23, the unadorned bosom of the deep, le sein sans ornement de l'océan. Il passe à la beauté de la mer, il évoque un lieu immense qui fait partie de notre ici, et il crée, ou Milton crée, de la poésie, en parlant en réalité non pas de la mer, de l'océan, mais du deep, du profond. Aussitôt après avoir parlé de la mauvaise influence d'une vision étriquée sur l'être de l'individu, Milton recrée l'ici dans la beauté par une poésie recréatrice. Puis, il y a le contraste entre la poésie de Comus et celle de la jeune fille. Tout le monde parle en poème, en poésie, dans la piécette, parce qu'il s'agit d'un... tout est écrit en vers. Mais Comus montre sans cesse qu'il a vu la beauté naturelle, qu'il l'apprécie et qu'il prend plaisir à en parler poétiquement. Voulant que la jeune fille boive sa drogue, il lui parle des plaisirs et du sang qui devient plus vif et, 670, brisk as the April buds in primrose season, alerte comme bourgeon d'avril à la saison des primevères. Il n'a pas besoin de faire cette comparaison, comme annonce la poésie, et brisk est un adjectif inattendu et parfait, et le signale comme un poète. Déguisé lui aussi en berger, il assure la jeune fille qu'il saura où se trouvent ses frères avant que le matin se réveille, 316, « Or the low-roosted lark from her thatched pallet rouse, ou l'alouette qui niche tout bas s'élève de son lit de paille tressé. » Il y a un accent surnuméraire sur le mot « ou » dans la photocopie. Et ces tout premiers mots, les tout premiers mots de Comus, surtout, disent le soir, avec beaucoup de délicatesse et selon un exercice très varié de l'imagination. Il voit l'étoile qui dit au berger de rassembler son troupeau. Il voit un rapport entre le haut du ciel et la vie sur terre. Il utilise une figure de la poésie gréco-latine pour dire que le char du soleil rafraîchit son essieu brûlant dans les eaux de l'Atlantique. Il observe le couchant et voit que les rayons du soleil, au lieu de descendre vers la terre, montent jusqu'à la voûte du ciel. Alors, si on ne savait pas que tous ces vers sont prononcés par Comus, on ne le devinerait pas. Comus voit la beauté du monde. Il l'imagine comme un poète, d'où le pathos du personnage qui vit dans la beauté de l'ici et qui ne cherche qu'à détruire. C'est très important, me semble-t-il, parce que Milton réfléchit en poète. Il voit à quel point on peut voir la beauté de l'univers, voir la beauté de la terre, prendre plaisir à être ici. Créer par la poésie, par le don de l'imagination, une terre, un univers encore plus beau et un bonheur encore plus grand. Et malgré tout cela, tout manquer, perdre en réalité le vrai bonheur et la vraie poésie, être emprisonné dans sa propre vision des choses. C'est important aussi parce que cela conduit vers le Satan du paradis perdu. Satan qui est l'ange de lumière qui choisit les ténèbres, l'être immense qui ne conçoit que des projets mesquins. On pourrait même penser que Comus est l'histoire d'une deuxième chute qui est évitée. Lorsque Comus essaie de séduire la jeune fille, c'est un peu comme Satan qui essaie à nouveau de séduire Ève, et elle n'est pas séduite. Mais la jeune fille aussi décrit le soir. Ce sont les vers 187-189. They, c'est-à-dire les frères, they left me then, when the grey hooded even, like a sad votarist in Palmer's weed, rose from the hindmost wheels of Phoebus Wain. Ils m'ont quitté quand le soir, au capuchon gris, comme un grave pèlerin portant son rameau, s'élevait des roues disparues du char de Phébus. C'est curieux et c'est très beau, parce qu'elle réécrit les vers de Comus. Comus aussi voit la beauté du couchant. The gilded car of day, le char doré du jour, revient dans Phoebus Wain, le char de Phébus. L'upward beam du soleil, le rayon ascendant du soleil, revient dans l'idée que cette ombre, rose, s'élevait. Mais pourquoi? Sans doute parce que Milton réfléchit à leur façon semblable et différente de regarder. La jeune fille pense aussi à l'imagerie païenne, le char d'Apollon, mais elle voit aussi un pèlerin. Et ce n'est pas une simple comparaison entre le soir et un pèlerin. Le soir est le moment, après tout, où des pensées sérieuses peuvent venir à l'esprit. C'est très traditionnel. Et des pensées tristes aussi. Un Palmer en anglais, pour lequel je ne crois pas qu'il y ait un mot en français, un Palmer est un pèlerin qui est allé à Jérusalem et il a le droit de porter une feuille de palmier. Un pèlerin qui a vu donc le site de la crucifixion. Il y a tout de suite une série d'idées tristes qui entrent simplement par la poésie de la jeune fille. Et surtout, elle voit mieux que Comus. Elle imagine le soir, à nouveau, au moment où le soleil disparaît, une ombre s'élève, comparable à un pèlerin au capuchon gris. La jeune fille se met en rapport avec le réel, en y voyant la profondeur de sa croyance, par la poésie, encore une fois le petit mot « comme », et par une poésie originale. Il y a le bonheur, il y a l'ici, il y a aussi, j'ai commencé déjà à en parler, la poésie. Quel est le rôle, après tout, de la poésie dans le bonheur d'être ici? Il y a un autre contraste dans le poème. Les chansons de Circé et des sirènes et la chanson de la jeune fille. La jeune fille chante au cours de la pièce. Comus se souvient de sa mère et des sirènes, vers 255-6, who, as they sung, would take the prisoned soul and lap it in Elysium, qui saisissait en chantant l'âme emprisonnée et la berçait de plaisirs élysiens. C'est peut-être ce que nous demandons à la musique, au plus irréel des arts, qu'elle nous libère des contraintes du moi et du quotidien, qu'elle nous procure un plaisir différent et même autre. comme on imaginait autrefois le plaisir des bienheureux aux Champs-Élysées. Comus continue, 259-60, « They, in pleasing slumber, lulled the sense, and in sweet madness robbed it of itself. » Elle plongeait la raison dans un doux sommeil et par une heureuse folie la privait d'elle-même. Le doux sommeil et l'heureuse folie sont les noms que l'on pourrait donner à une mauvaise lecture de la poésie, à une mauvaise écoute de la musique, à un mauvais regard sur la peinture. C'est un peu comme le breuvage magique de Comus, « with many murmurs mixed », qui semble signifier à la fois qu'il murmure des incantations en mélangeant la drogue et qu'il murmure des mots persuasifs en offrant la drogue à ses victimes. Milton sait le danger d'un langage persuasif et le danger de la poésie. Milton crée de la poésie au moment même où il en parle, la polysémie du mot « murmure », l'allitération charmante de « many murmurs mixed ». Et c'est un peu la muse en tant que femme fatale. Comus se rappelle le chant des sirènes, par contraste, lorsqu'il entend la chanson de la jeune fille. Une musique telle qu'il n'en a jamais entendue, dit-il, où il sent quelque chose de saint, de sacré, où il trouve surtout, vers 262, « such sober certainty of waking bliss », la si sobre certitude d'un bonheur éveillé. En un seul vers, il oppose le sommeil, le rêve provoqué par une certaine poésie, par la poésie de sa mère et des sirènes, à l'éveil provoqué par la bonne. Il suggère dans « waking bliss » à la fois un bonheur éveillé et un bonheur auquel on se réveille, la bonne poésie ayant pour effet de nous réveiller au réel. Il sent la certitude de celui qui se réveille à l'ici, et Milton s'amuse, me semble-t-il, on parle très peu du sens comique de Milton, et on décide une fois pour toutes que c'est un poème qui pèse Milton. Il s'amuse de façon sérieuse en donnant au fils de Bacchus, qui invite à son livret, le mot « sobre ». Le vers entier est le nom que l'on pourrait donner à l'effet produit par la bonne poésie, la sobre certitude d'un bonheur éveillé. Autrement dit, il y a l'imagination qui berce et l'imagination qui réveille, et Milton souligne la différence en faisant que Comus parle ici de « waking bliss », d'un bonheur éveillé, et qu'il offre plus tard à la jeune fille, « the bliss of dreams », le bonheur des rêves. Comus, encore une fois, voit parfaitement, avec une très grande intelligence, mais n'apprend rien, revient vers le bonheur des rêves. Milton se demande, en quelque sorte, quel bonheur est un vrai bonheur, un bon présage, l'accès à l'avenir. Et comment Comus, profondément étonné par cette chanson, par la voix qu'il vient d'entendre, appelle-t-il la jeune fille quand il l'aborde? Il lui dit « Hail, foreign wonder !» Salut, merveille étrange. Autrement dit, l'art vrai de la jeune fille est un émerveillement et est étranger au monde comme il va. Puis, la poésie change l'ici. Le mot « change » revient souvent dans le poème. Au début, l'esprit, en parlant de la terre pleine de vapeurs pestilentielles, parle aussi de la couronne que donne la vertu after this mortal change, littéralement après ce changement mortel. C'est une expression curieuse en anglais et volontairement curieuse, qui signifie à la fois que la mort qui nous change en autre chose, le changement au moment de la mort est donc un changement mortel, et, me semble-t-il, la vie qui est une sorte de changement mortel, nous sommes mortels, donc la vie est mortelle, la vie pendant laquelle nous ne cessons de changer et pendant laquelle nous avons l'occasion de changer en profondeur. Je note aussi que la première phrase du poème occupe 11 vers, ce qui n'est pas du tout étonnant dans un ouvrage de Milton qui aime beaucoup les très longues périodes, qui en est même le maître. Et que l'allusion au changement, au mortal change, arrive au vers 10, ce qui est encore une fois très miltonien, gardez pour la fin l'essentiel. Mais je note aussi que le seul verbe principal au vers 2 est le verbe « is ». Alors, pour Milton, le maître aussi de la syntaxe organisatrice et hautement dramatique, cela semble, à première vue, un peu faible. On s'attend s'il n'y a qu'un seul verbe principal, tous les autres verbes étant dans des subordonnées, s'il n'y a qu'un seul verbe principal, on s'attend à quelque chose un peu plus sexy. Il y a simplement le verbe « is ». Mais en réalité, quand on se pose la question et quand on cherche la réponse et quand on trouve la réponse, on comprend le génie de Milton. Parce que l'esprit dit que sa demeure est au ciel. C'est au seuil de la cour de Jupiter que « my mansion is ». En le lisant en anglais, on étouffe un peu le mot « is ». Au seuil de la cour de Jupiter, « my mansion is ». Mais quand on y revient, on comprend que Milton a dit que la demeure de l'esprit est. C'est le sens ontologique du verbe qui prime. Le ciel, le monde de Jupiter, est le monde de l'être, alors que la terre est le monde du changement. C'est très précis et c'est génial. Puis Sabrina, la jeune fille transformée en déesse du fleuve Severn, selon le vers 880, underwent a quick immortal change, subit un changement rapide et immortel. Encore une fois, l'expression est un peu curieuse en anglais, intéressante mais curieuse. Milton passe de mortal change à immortal change, et il sait évidemment ce qu'il fait. Je note aussi la beauté de l'adjectif quick, qui signifie rapide et vif, mais aussi vivant. dans la vieille expression qu'on utilise quelquefois, même maintenant en anglais, « the quick and the dead », qui signifie les vivants et les morts. Et le visage de ceux qui boivent le poison de Comus, vers 69-70, « is changed into some brutish form », est changé en quelque forme animale. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi Milton a créé ce personnage, fille de Circé, qui transforme les hommes en porcs. L'idée de changement, de transformation, est au cœur du poème. Puis le mal sera finalement séparé du bien, dit l'esprit, et existera vers 595 in eternal restless change, dans un changement éternel et sans repos. Autrement dit, il y a deux sortes de changements, pour le bien et pour le mal, et le changement existentiel, ontologique, sous-tend le poème. D'où l'esprit d'Orphée. Milton ne fait jamais rien au hasard. Il introduit au moins deux fois Orphée. L'esprit dit à un moment que la musique de Tircis, le berger, c'est arrêter les grands vents rugissants et calmer les bois agités. Et Milton introduit Orphée parce que pour lui, la fable n'est qu'une fable, il n'y croit pas littéralement, pas plus que nous, mais le sens de la fable est vrai. C'est une fable sur le pouvoir de la musique et de la poésie de changer notre façon de voir le monde. Une fable est une fiction qui explique le réel. D'où la présence de la pastorale aussi. La pastorale se trouve à côté du réel. Ce n'est pas le vrai monde des bergers, si vous pensez à toutes les pastorales du XVIIe, XVIIIe siècle, en peinture comme en poésie d'ailleurs, ce n'est pas le vrai monde des bergers, et Wordsworth vient après pour le dire de façon assez violente et coléreuse, ce n'est pas le vrai monde des bergers, c'est une fiction proche de la réalité qui permet de mieux voir la réalité. Et dans le monde pastoralisé, si l'adjectif n'existe pas, je l'invente, tout change et peut continuer précisément de changer. Et je note qu'en même temps que Milton crée ce monde autre, où se trouve aussi un esprit et une sorte de démon, Comus, il reste très près de la réalité, en incluant tant de détails du monde naturel. Par exemple, un exemple sur je ne sais pas combien, les moutons broutent, not grass, dew besprent, vers 541. Not grass, dew besprent, la renouée des oiseaux inondée de rosée. Pourquoi être si précis? Il veut être précis parce qu'il prend plaisir dans les détails des présences de la nature. D'où aussi la création de tant de nouveaux mots qui ne semblent pas être nouveaux parce qu'ils sont, entrés dans l'anglais. Pour nous, ce sont des mots ordinaires. Unprincipled, unenchanted, shroudy, lovelorn, overexquisite, unmuffled, plumes, comme un verbe. Autrement dit, Milton change l'anglais, d'où l'anacticis. Milton œuvre pleinement en poète. Il pense, il écoute ce qui se passe en lui au moment d'écrire. Il écoute l'anglais et les rythmes de l'anglais. Il organise et ordonne. Et il recrée constamment sa façon, notre façon, de voir le réel. J'ai dit que Comus est un vrai poète et, ayant regardé la danse des étoiles, il continue « The sounds and seas, with all their finny drove, now to the moon in wavering morris move. » Vers 115, 116. les détroits et les mers, leurs troupeaux de poissons se meuvent sous la lune en danses ondoyantes. Il revoit la mer et les habitants de la mer. Il les voit bouger comme un ensemble sous l'influence de la lune. Et l'étrangeté de la vision est soutenue par l'étrangeté de Morris, danse, mais à l'origine mauresque. Et les vers mêmes ondoient. Now to the moon in wavering Morris move. Autrement dit, Milton explore dans Comus différents niveaux de bonheur, l'allégresse et la mélancolie, pour simplifier. Il explore différentes façons de se mettre en rapport avec l'ici ou de ne pas se mettre en rapport avec l'ici, selon la manière dont nous voyons. Et il explore le rôle de la poésie qui, ou bien nous attire dans l'enchantement de la langue, des images, d'un récit, dans le rêve, ou bien nous réveille au possible de l'ici, nous permet de revoir le réel sous le signe du changement, de la transformation, de la recréation. Bien, la semaine prochaine, je parlerai sous le titre « Le bonheur du silence et de l'écho », en revenant au poème de Claudel que j'ai commenté l'année dernière, « Les Muses », je parlerai d'autres passages, bien sûr, « Les Muses » de Claudel, et en parlant aussi de la chanson de la jeune fille dans Comus de Milton, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.